Salat, deuxième pilier, la prière. Les paroles de la prière rituelle dans l'islam, appelées salat, s'effectuent selon un ordre prescrit et sont accompagnées de positions du corps bien précises. Cette prière constitue l'acte d'adoration le plus important dans l'islam. La salat quotidienne est si centrale dans l'islam que dans certaines langues, pour demander à quelqu'un s'il est musulman, on lui demande tout simplement « Fais-tu la prière ?» et non pas « Es-tu croyant ou crois-tu en Dieu ?» Il y a d'autres pratiques importantes, mais elles se manifestent à intervalles beaucoup moins fréquents, une fois par an, voire une fois dans une vie. Du simple fait qu'il s'arrête pour prier 5 fois par jour, le musulman a constamment à l'esprit la nécessité de mettre Dieu avant tous ses autres soucis. La salat, prière rituelle, à heure fixe, est différente du duha, qui est une prière volontaire et personnelle, faite de mots ou de prières choisies par la personne. La salat n'est pas simplement l'expression de la foi d'un musulman, bien qu'elle soit d'abord cela. C'est également le moyen par lequel un musulman intériorise et approfondit sa foi, ce à quoi sert la prière dans la plupart des religions. Comment les musulmans savent-ils quand ils doivent faire leurs 5 prières quotidiennes? Le temps précis varie selon l'endroit géographique et l'époque. Dans un pays musulman, l'appel à la prière donne le signal. Il retentit par-dessus les toits et frappe l'esprit du touriste non musulman. Dans les pays non musulmans, il existe des feuilles imprimées avec les horaires de la prière, des programmes informatiques et des sites web musulmans qui indiquent l'horaire exact de la prière en tout temps et en tout lieu. Les 5 prières quotidiennes sont les suivantes. Prière du début de la journée, avant l'aube, 2 cycles de prière. Prière de midi, 4 cycles de prière. Prière du milieu de l'après-midi, 4 cycles de prière. Prière du coucher du soleil, 3 cycles de prière. Prière du soir, entre 1 heure après le coucher du soleil et minuit, 4 cycles de prière. Dans certaines circonstances, 2 des salats quotidiennes peuvent être combinées. Des salats manquées peuvent être dites en privé à un autre moment. Ces modifications peuvent être considérées comme acceptables dans des situations telles que la maladie ou le transport public. Les femmes sont exemptées de la prière quand elles ont leurs règles, car elles sont alors considérées comme impures à cause du sang menstruel, tout comme un homme est impur après une émission de sperme. Se reporter ci-avant à la section sur la purification intitulée « Source d'impureté » dans ce chapitre. En plus des 5 salats prescrites chaque jour, les musulmans exécutent des salats volontaires supplémentaires et des salats spéciales les 2 principaux jours de fête, à la fin du mois de Ramadan et pendant le Hajj, pour des enterrements et à d'autres occasions spéciales. Tous les musulmans observent-ils les 5 prières quotidiennes? Certes non, pas plus que tous les chrétiens ne vont à la messe une fois par semaine. Cependant, avec la montée du sentiment religieux au cours des 25 dernières années dans le monde musulman, on constate qu'un plus grand pourcentage de musulmans observent les 5 prières quotidiennes, ainsi que le reste des 5 piliers du culte, plus strictement que dans le passé. Si la nécessité empêche une personne de faire ses prières, Dieu la comprend et prend en compte son intention, ce qui lui permet de dire sa prière à un autre moment de la journée. Texte sacré. La biographie traditionnelle de Mohammed explique pourquoi les musulmans prient 5 fois par jour. Elle explique que, à l'heure du voyage nocturne de Mohammed à Jérusalem et de son ascension jusqu'au trône de Dieu, écoutez le chapitre 7, Dieu a fait savoir à Mohammed que les musulmans devraient prier 50 fois par jour. Sur le chemin du retour, Mohammed rencontra Moïse, qui lui demanda combien de prières Dieu avait demandé aux hommes. Moïse lui rétorqua que les hommes seraient incapables d'en faire 50 par jour, et dit à Mohammed de retourner voir Dieu pour lui demander de réduire ce nombre. Il en fut ainsi plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que ce nombre se limite à 5 par jour. À ce stade-là, Mohammed n'osa plus demander à Dieu une réduction supplémentaire. Dieu dit à Mohammed que le musulman qui fait ses 5 prières par jour sera récompensé comme s'il en avait fait 50. Il n'y a pas d'endroit précis pour faire la salate. Au moment opportun, les musulmans arrêtent leurs occupations et se tournent vers la Mecque, qui est le centre religieux du monde musulman, situé dans l'actuelle Arabie Saoudite. La direction de la Mecque s'appelle la Qibla. Les mosquées sont construites de telle façon qu'un des murs, le mur de la Qibla, est orienté vers la Mecque. À l'intérieur de la mosquée, une partie de ce mur, souvent une alcôve semi-circulaire, indique la direction de la Mecque vers laquelle le musulman doit se tourner pour la prière. Cette alcôve s'appelle le mihrab. Avant la salate, on enlève ses chaussures. Si l'on ne se trouve pas dans une mosquée, on déroule un tapis de prière pour délimiter le périmètre de la prière. Habituellement, le tapis de prière porte une représentation de la grande mosquée de la Mecque, la mosquée la plus sainte de l'islam. Si l'on ne dispose pas de tapis de prière, un simple journal peut suffire. Dans le désert, c'est la dune même qui sert de tapis. En mer, le pêcheur peut prier dans son embarcation. Même s'ils peuvent prier seuls, les musulmans privilégient la prière communautaire. Ils s'alignent en rang les uns à côté des autres, tandis qu'une seule personne se tient devant et dirige la prière. Il s'agit de l'imam, c'est-à-dire le chef de la prière. En accord avec la préséance généralement accordée à la gent masculine dans la sphère publique, une femme peut diriger la prière devant d'autres femmes, mais pas devant des hommes. Une tradition dont certaines femmes musulmanes disent qu'elle ne provient pas du Coran. L'appel à la prière, connu sous le nom de Hadan, retentit pour annoncer la prière du moment. Si vous avez déjà fait un séjour en pays musulman ou regardé un documentaire sur l'islam, vous avez forcément entendu l'Hadan, même si vous ne saviez pas exactement à quoi il correspondait. Dans le passé, environ 15 minutes avant la période prévue pour la prière, le muezzin, celui qui délivre l'appel à la prière, montait au minaret, une grande tour qui s'élève de la mosquée ou qui la jouxte, comme un clocher orne une église. C'est de là qu'il appelait autrefois les fidèles à la prière. Si les muezzins existent toujours, aujourd'hui, l'appel est fréquemment diffusé à partir d'enregistrements retransmis par des haut-parleurs situés sur le minaret ou au-dessus d'un bâtiment à plusieurs étages. À l'intérieur de la mosquée, l'annonce de la prière est faite sous une forme un peu différente, l'ikama, finissant par ces mots « La prière est établie » pour indiquer le début réel du rituel de salat.
Les minarets. Comme le mihrab, ou niche de prière, le minaret ne faisait pas partie à l'origine des premières mosquées. C'est devenu une caractéristique habituelle vers la fin du 1er siècle musulman. Selon les régions, le style architectural des minarets varie. En Syrie, on rencontre le modèle carré, typique de la période omeyyade. Ailleurs, comme à Istanbul, on trouve le style élancé de la flèche, caractéristique de l'époque ottomane. Pour en savoir plus sur les omeyyades et sur les ottomans, reportez-vous au chapitre 2. Quand on connaît un peu les différents styles architecturaux des mosquées, on peut très facilement savoir dans quelle région du monde se trouve la mosquée représentée sur un cliché. Il y a au Maroc un minaret célèbre qui a été construit pour permettre au muezzin de monter jusqu'en haut à dos d'âne, l'animal faisant en quelque sorte office d'ascenseur.
Texte sacré. Puisque l'Adhan est l'un des textes de l'islam le plus souvent récité, vous serez peut-être curieux d'en connaître la traduction en français et sa prononciation en arabe parlé. Voici quelques expressions répétées un nombre de fois variable qui composent l'Adhan. Dieu est grand. Cette expression s'appelle le takbir. « Je suis témoin qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Je suis témoin que Mohammed est le messager de Dieu. Levez-vous pour la prière. Levez-vous pour le salut. Dieu est grand. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Avant la prière de l'aube, les sunnites ajoutent juste avant la fin de la prière, qui se termine par « Allahu Akbar », la formule suivante. La prière est meilleure que le sommeil. Les chiites, eux, ajoutent « Lève-toi pour la meilleure des œuvres ». Les chiites du haut des cimins ajoutent une référence à Ali avant la fin de l'Adhan. Pour en savoir plus sur les différences entre les sunnites et les chiites, reportez-vous aux chapitres 12 et 13.
Takbir, invocation de Dieu. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, la shahada fait partie de l'appel à la prière. Le takbir, c'est-à-dire la formule qui consiste à énoncer « Allahu Akbar », en fait également partie. Les musulmans emploient fréquemment cette expression exclamative en toutes sortes de circonstances. On traduit habituellement cette expression par « Dieu est grand ». En fait, une traduction plus littérale serait « Dieu est le plus grand ». Lors de rassemblements musulmans, un orateur peut demander à l'assistance de répondre avec un takbir, de la même manière qu'un animateur peut demander à une foule de répéter un slogan populaire ou une devise commune à tous. Le takbir peut aussi être l'expression d'une piété personnelle, tout comme un chrétien peut ponctuer son discours de « Louange à toi, Seigneur ».
La première prosternation, raka. Selon l'heure de la journée et la prière associée, le cérémonial de la prière comporte entre 2 et 4 cycles de prosternation, raka, avec une séquence de gestes et de paroles d'accompagnement. Au cours des 5 prières quotidiennes, le fidèle accomplit au minimum 17 raka. Dans une salat en assemblée menée par un imam, celui qui dirige la prière, les fidèles récitent les prières intérieurement ou à voix basse. Avec de légères variations dans la position du corps et dans les paroles, à chaque étape, la raka inclut les étapes suivantes. Chacun des participants ayant au préalable reconnu explicitement l'intention d'exécuter la salate. Premièrement, debout, les pieds légèrement écartés, la personne lève les mains au niveau de la tête, puis les paumes tournées vers l'extérieur et vers le haut, elle récite le takbir à haute voix. Les mains le long du corps, elle récite la première sourate, Fatiha, et un autre passage du Coran. Cette première posture se termine par la récitation d'un autre takbir. Deuxièmement, incliné les mains sur les genoux, le fidèle dit 3 fois « Gloire à Dieu Tout-Puissant ». Troisièmement, se redressant, il dit « Dieu entend ceux qui le louent. Ô Seigneur, louange à toi !» et termine par un autre takbir. Quatrièmement, le fidèle se prosterne, le front touchant terre, avec les deux mains à plat au sol, et il dit 3 fois « Loué soit Dieu, le Très-Haut, qu'il soit loué !» Puis il termine par un takbir. Après des années de pratique de la salate, le fidèle peut avoir sur le front une petite bosse bien visible qui est considéré comme le signe de sa piété. Cinquièmement, il se redresse et s'assoit, le pied gauche replié sous la cuisse gauche, en plaçant son pied droit en position verticale, les orteils touchant le sol. Plus facile à faire qu'à expliquer. Certains musulmans font à ce moment-là une demande de pardon pour solliciter la rémission de leurs péchés, et tous prononcent un autre takbir. Sixièmement, pour clore la première raka, le fidèle fait une deuxième prosternation et se remet en position assise. Vouloir décrire le rituel de la prière avec ses gestes et ses paroles peut paraître un peu artificiel et rigide. En fait, cela revient à décrire la succession des gestes que l'on fait quand on veut saluer quelqu'un en lui serrant la main. À quel moment dois-je tendre la main? Dois-je attendre que l'autre personne me tende la sienne? Comment dois-je prendre la main de l'autre personne? Que dois-je dire à ce moment-là? Dans la pratique, quand on serre la main à quelqu'un, on ne pense pas à tous ces gestes. Il en va de même pour les musulmans qui peuvent faire la raka en quelques minutes, sans penser aux détails. Dans la pratique, les choses se font plus naturellement, avec une certaine souplesse. Un musulman peut très bien faire sa raka entouré de petits-enfants qui gambadent, par exemple. Certains arrivent après le début de la première raka et rattrapent silencieusement ou répètent la raka manquée à la fin de la salate. Conseil. Pour apprécier la salate, il faut l'avoir observée. En France comme ailleurs, les mosquées sont très accueillantes aux non-musulmans. On vous y accueille avec beaucoup de chaleur et on vous invite à observer la façon dont se passe la prière. Sachez vous montrer respectueux et renseignez-vous à l'avance sur les horaires auxquels vous pouvez venir sans problème. Vous serez probablement assis vers l'arrière, ou avec les femmes si vous en êtes une, et pourrez regarder sans participer. Étant donné que beaucoup de paroles sont dites à voix basse, il vous faudra quelques explications supplémentaires pour saisir tout ce qui se passe. Il existe des CD ou des DVD prévus principalement pour de nouveaux convertis à l'islam, mais qui pourront vous aider à mieux comprendre la salate en détail. N'oublions pas que chacune des cinq prières quotidiennes implique 2 à 4 raka, prosternation. Pour faire la raka, il faut être debout. On prononce un takbir et on commence le cycle suivant. À la fin de la deuxième et de la dernière raka, une salutation type, la tahiyya, est faite pour demander les bénédictions de Dieu sur Mohammed. À la fin de chaque cycle clôturant la salate, le fidèle s'assoit et récite le témoignage, tashahoud, suivi de l'invocation de la bénédiction sur Mohammed et Abraham. Après une prière finale pour la paix, le fidèle tourne la tête vers la droite, puis vers la gauche, en disant « La paix soit sur vous. » Al-salam alaykoum. La croyance populaire dit que l'on s'adresse non seulement aux personnes à côté de soi, mais également aux anges qui observent le fidèle dans sa prière. Ainsi se conclut la salate formelle et obligatoire. Fréquemment, le fidèle continue à se recueillir en disant alors plusieurs prières personnelles de son choix, doua. Puis il se lève et dit « Al-salam alaykoum » aux personnes qui sont à côté de lui. Il peut alors, s'il le souhaite, faire 2 rakas supplémentaires avant de s'en aller. Voici un exemple de prière facultative à la fin de la salate. Texte sacré. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu, l'unique. Il n'a aucun associé. À lui appartient la souveraineté et à lui appartient la louange. Il est tout-puissant, au-dessus de tout. Ô mon Dieu, personne ne peut prendre ce que tu donnes et personne ne peut donner ce que tu refuses. La magnificence du Très-Haut ne s'exercera pas contre vous. Il existe bien d'autres prières personnelles qui peuvent être dites en de nombreuses circonstances. Naturellement, les prières attribuées à Mohammed sont populaires, comme celle-ci que l'on peut dire avant d'aller se coucher. Toute louange revient à Dieu, qui fournit le repos à mon corps, restaure mon âme et me permet de ne pas l'oublier. Pour aller plus loin, un livre récent paru au Seuil en octobre 2007 regroupe les textes des prières de 5 grandes religions : judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme et hindouisme. Il peut vous aider à mieux saisir la portée de la prière musulmane. Il est intitulé « Ce que les hommes disent aux dieux ». Son sous-titre est encore plus éloquent « Prière des grandes religions ». Le vendredi, dans toutes les villes musulmanes, la communauté tout entière se réunit dans une grande mosquée conçue pour la grande prière communautaire du vendredi midi, Jumu'ah. Ce jour-là, les fidèles délaissent les mosquées de proximité où ils vont habituellement en semaine. Naturellement, dans les très grandes villes, il faut plusieurs grandes mosquées pour pouvoir accueillir tous ceux qui assistent à l'assemblée du vendredi. En entrant dans une mosquée, le fidèle exécute habituellement deux prosternations, raka. Avant de démarrer réellement la salate, un imam ou un autre fidèle instruit monte dans la chaire, minbar, située à droite de la niche de prière, mihrab. De là, il délivre un sermon, khutba. Certains minbars sont des chefs-d'œuvre minutieusement sculptés. Dans des mosquées plus modestes, l'imam se tient derrière un simple lutrin. Le sermon part d'un passage spécifique du Coran et commente un aspect lié à une croyance ou à un comportement. Dans les pays musulmans, le sermon inclut traditionnellement une bénédiction à l'intention du roi ou du chef d'État en exercice. Tous les magasins, bureaux et lieux de travail ferment pendant le service du vendredi, mais rouvrent ensuite pour le restant de la journée, une fois la grande prière terminée. Le texte suivant, tiré du Coran, sourate 62, 9-10, constitue la justification de cette prière communautaire du vendredi. Texte sacré. Ô vous qui croyez, quand l'appel à la prière est proclamé le jour de l'assemblée, empressez-vous de revenir vers Dieu et cessez vos affaires. C'est ce qu'il y a de meilleur pour vous, si vous le comprenez. Et quand le service de prière est terminé, dispersez-vous aux quatre coins de la terre, cherchez la générosité de Dieu et pensez souvent à Dieu afin de prospérer. Pour aller plus loin, si vous assistez à la grande prière du vendredi dans une mosquée en France, vous trouverez peut-être que le sermon est trop facile et moins connoté par rapport à ceux que l'on entend dans les églises chrétiennes. Cependant, la situation n'est pas comparable, d'autant que l'islam est divers, tandis que l'observance de la prière est très suivie. Le niveau d'appréhension est divers, certains sont très avancés dans le domaine des connaissances religieuses et attendent de l'imam un bon prêche théologique. D'autres le sont bien moins et cherchent surtout des directives pour leur vie quotidienne. N'oubliez pas que la grande prière du vendredi, dans un pays musulman, réunit une vaste assemblée à qui l'on peut délivrer un message qui peut être diversement reçu par les autorités en place. Parfois, le prêche est nettement en faveur du gouvernement, mais il arrive aussi que la mosquée soit une mosquée dissidente, comme ce fut le cas en Égypte avec les frères musulmans et en Algérie, au temps du Front islamique du Salut, le FIS. Pour cette raison, le gouvernement cherche à exercer un contrôle strict sur les mosquées et également sur la nomination de l'imam. L'architecture et la calligraphie sont les deux formes d'art les plus importantes dans l'islam. Les grands chefs-d'œuvre architecturaux sont les palais, par exemple l'Alhambra en Espagne, le dôme du Rocher à Jérusalem et les sanctuaires funéraires, par exemple le Taj Mahal. Cependant, c'est dans l'architecture des mosquées que le génie de l'âme musulmane se manifeste au plus haut degré. Masjid, le mot arabe pour mosquée, signifie « le lieu de la prosternation », soulignant combien la prière rituelle est l'activité centrale du culte. Le mot « masjid » peut signifier n'importe quel terrain découvert qui ne soit pas rituellement impur et qui soit apte à servir de lieu de prière. Le plan d'une mosquée classique est calqué sur celui de la première maison de Mohammed à Médine. Sur le côté est d'une grande cour se trouvaient les salles réservées aux épouses de Mohammed. Du côté sud de la cour, deux rangées de piliers soutenaient un toit permettant de s'abriter du soleil brûlant d'Arabie. Le toit plat, les piliers, la cour et le secteur couvert orienté vers la Mecque ont été repris pour le plan type d'une mosquée. Ce n'est que plus tard, après la conquête de l'Iran, qu'est apparue la structure en dôme qui a été utilisée pour les mosquées. Voici les caractéristiques d'une mosquée qui néanmoins ne se retrouve pas systématiquement dans toutes. Mur de la Qibla doté d'une niche de prière, mihrab, orientée vers la Mecque. Pupitre, minbar, à la droite du mihrab. Minaret. Fontaine ou toute autre installation pour la purification. Hall de prière. Tapis de prière dans la grande salle et dans les salles attenantes. Espace spécial aménagé pour les femmes. Dans une mosquée, il n'y a pas de siège ni de chaise, excepté peut-être au fond pour les personnes handicapées. D'autres structures peuvent être associées à une mosquée ou incorporées à la mosquée elle-même, comme des écoles pour les enfants en bas âge, des madrassas dispensant une formation plus élevée dans les études islamiques et des hospices pour les voyageurs. Les mosquées ne sont pas toutes pareilles. Dans certaines régions d'Afrique, le service du vendredi peut se tenir sur un grand terrain découvert en dehors de la mosquée. Dans certains pays occidentaux, où l'implantation de l'islam est relativement récente, la mosquée peut être une ancienne église. Elle peut aussi s'abriter derrière une ancienne devanture de magasin qui ne laisse pas deviner l'existence d'un lieu de culte. Comme pour le minaret, se référer au passage sur les minarets dans ce chapitre, l'architecture d'une mosquée varie selon les régions du monde musulman où elle se trouve. Le revêtement extérieur peut être aussi bien de la brique, de la pierre, de la terre battue, des carreaux de céramique ou tout autre matériau. Pour aller plus loin, vous ne verrez jamais de représentation humaine ou divine dans les mosquées. Vous n'y verrez pas de vitraux, ni de peintures murales représentant des scènes du Coran, ni de statues d'anges ou de Mohammed, ni d'autres personnages clés de l'islam. Cela ne veut pas dire pour autant que les mosquées ne soient pas décorées. La céramique, le stuc et la brique fournissent un matériau qui permet de multiples agencements élégants. Le motif le plus fréquemment représenté est celui des versets du Coran, dont les arabesques et les volutes s'entrelacent si artistiquement, avec une si grande qualité d'abstraction, qu'il est parfois difficile d'arriver à retrouver le texte arabe, même quand on connaît bien l'arabe. Frises décoratives et panneaux de calligraphie du Coran peuvent alterner avec des panneaux de dessins géométriques abstraits ou des modèles de fleurs, de feuilles et de branches. Le tout est appelé arabesque. Pour aller plus loin, l'interdiction des images se fonde sur le commandement de la Bible hébraïque qui dit « Tu ne feras aucune image sculptée ». Exode 20, 4. Deutéronome 4, 15, 18. Dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, en revanche, les images divines jouent un rôle important. Dans l'islam, l'interdiction des images s'applique rigoureusement aux mosquées, mais pas toujours à la décoration des bâtiments non religieux. Cette interdiction catégorique des images fait que l'art islamique ne connaît rien de comparable à la tradition picturale des pays occidentaux. Pas de Rembrandt, de Monet ou de Léonard de Vinci dans l'islam. Il existe cependant une tradition d'illustration de textes non religieux transmise par les manuscrits persans où l'art de la miniature s'est épanoui avec virtuosité.
La première mosquée de l'islam. La biographie traditionnelle de Mohammed rapporte l'histoire suivante. Quand Mohammed est arrivé la première fois à Médine, plusieurs grandes familles locales voulaient qu'il demeure chez elles. Mohammed, cependant, a laissé à Dieu le soin de choisir. Juché sur son chameau, il s'est laissé guider par l'animal. Le chameau arriva finalement à une maison appartenant à deux orphelins, et qui se trouvait sur un terrain découvert, utilisé pour faire sécher les dattes. Le chameau se mit alors à genoux, mais Mohammed n'en descendit pas. Le chameau s'éloigna un peu, mais revint au même endroit et s'affaissa, épuisé, sur le sol. Mohammed descendit de sa monture et entra dans la maison. Le tuteur des orphelins reçut de l'argent pour sa maison et pour le terrain, et c'est là que Mohammed et les siens construisirent leur maison qui allait devenir la première mosquée.